Donc simplement, aujourd'hui, on vous propose un cours un peu de transition. Alors, je vais expliquer cela dit, avant de commencer le cours, je voulais revenir sur quelque chose parce qu'on a eu des échos avant le dernier cours, par rapport aux événements, vous savez, Charlie Hebdo, où certains avaient été surpris qu'on n'en parle pas à ce moment-là. Alors c'est simplement parce qu'il se trouve que nous, on n'écoutait pas la radio, on travaillait à ce moment-là. On était on faisait ce qu'on appelle, vous savez, déjeuner d'affaires, c'est-à-dire qu'on était au restaurant juste en face et on discutait du cours. Du coup, on n'a pas écouté la radio et il se trouve que ce qui s'est passé, l'événement s'est passé en même temps que nous faisions notre déjeuner d'affaires. Donc évidemment, on n'en a pas parlé parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas qu'il s'était passé quelque chose. Et comme nous ne sommes pas la génération iPod, iPhone, etc., donc on n'avait même pas accès à l'information du direct. On s'en est juste parce que certains, c'est pas qu'ils attendaient, mais ils ont un peu souffri quand même qu'on n'en parle pas. Donc, évidemment, aujourd'hui, nous avons prévu d'en parler un peu, mais dans le cadre du cours que nous sommes en train de faire avec vous. Donc, je vous rassure tout de suite, on va en parler un petit peu. Simplement, je ne vais pas en parler tout de suite, tout simplement parce que c'est un cours en deux parties. Et la première partie, c'est moi, c'est pour ça que je commence, par rapport à ce qu'on vous a distribué. Et il se trouve que ça a un lien avec la deuxième partie du cours, qui est Bernard, qui va l'exposer. Et à ce moment-là, je vais vous expliquer ça, à ce moment-là, Bernard parlera de cet événement, parce que ça a effectivement un lien avec une partie du cours qu'on voulait faire aujourd'hui. Alors, c'est une coïncidence, c'est pas, on l'a pas fait exprès, mais ça vient un lien, effectivement. Voilà, donc on vous demande un peu de patience, pour ceux qui attendraient qu'on se prononce sur cette question-là. Donc voilà. Alors, par rapport au dernier cours, par contre, puisque là nous sommes dans une sorte de cours de transition, on avait été voir, par rapport au vocabulaire qui était utilisé, le mot travail, l'histoire du mot travail, et puis les activités qui sont désignées par aujourd'hui par le mot travail, qui n'ont pas toujours été désignées par ce terme-là. Et on a voulu montrer que les choses étaient peut-être beaucoup plus relatives qu'on le croit, tout simplement parce que nous, quand on utilise le mot travail, on pense à beaucoup d'activités en même temps, qui sont en fait historiquement plutôt hétérogènes. Il n'y a pas cette homogénéité que nous avons aujourd'hui, avec cette idée que la conclusion entre travail et emploi, en fin de compte, est polysémique, dans le sens où c'était pas l'idée que ça aurait réduit le champ de ce que nous appelons le travail, c'est plutôt l'inverse, c'est que par l'emploi, par la notion d'emploi, on a commencé à désigner par notre travail des activités qui n'étaient pas forcément désignées comme faisant du travail historiquement. Alors, c'était pour relativiser le fait que quand on utilise un terme, on avait terminé là-dessus, quand on utilise un terme comme le travail, par exemple, le travail, on a une tendance à en dilatable, par exemple, c'est vrai pour tous les termes qu'on utilise en vie tous les jours, on a une tendance à faire que ce terme correspond à une réalité, en fait. Donc, si on fait l'histoire du travail, il faudrait que ce soit l'histoire de ce que nous désignons, nous, par le mot travail. Et c'est ça qui est impossible, parce que, évidemment, du coup, la confusion vient peut-être aussi de là. C'est impossible parce que, évidemment, c'est prendre les mots qu'on utilise aujourd'hui pour désigner ces choses-là pour la réalité, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. C'est notre façon d'en parler, en fait. Donc, et on avait dit, ça pourrait être intéressant, ça va être l'objet de ce cours aujourd'hui, avant de parler du travail comme source de valeur, de rester un moment sur ce dont il était question la dernière fois, savoir l'importance, la valeur du travail, l'importance que l'on donne à ce qu'on appelle le travail, avant de parler du travail comme source de valeur, par contre, et de quelle valeur, etc. Et on s'était dit avec Bernard, ça pourrait être intéressant d'aller voir ce que les anthropologues ont à dire sur la question, et donc d'aller voir le travail comme donnée anthropologique, à savoir que, après tout, le travail tel que nous le vivons dans notre culture, et peut-être pas la façon dont d'autres cultures ont pu vivre. Est-ce que les ethnologues, les anthropologues contemporains ont des choses à nous dire là-dessus? Quoi? Et est-ce que ça peut nous apprendre quelque chose sur le sens du mot travail? C'est le texte de classe que vous avez, qu'on vous a distribué aujourd'hui, qui est un grand anthropologue contemporain. Ça date un peu, c'est des années 70. Mais c'est contemporain lui-même, ça fait partie du champ intellectuel. intellectuel contemporain, de la philosophie contemporaine, comme on dit, donc, qui lutte sur parfaitement cela, où Castres, ethnologue, anthropologue et ethnologue. Alors, ethnologue, c'est celui qui va étudier les cultures en elle-même, pour elle-même, sans se préoccuper du rapport avec sa culture. Et Castres fait des observations très intéressantes sur cette notion de travail dans des cultures qui ne sont pas les nôtres. Et là, on apprend un certain nombre de choses, de ce qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui. Et donc, ce cours va être en deux temps. Pourquoi ? Parce que c'est le schéma qu'on vous a distribué. On voit bien que le travail comme données anthropologiques, alors données anthropologiques, ici c'est d'un point de vue où on va aller voir la place et le rôle qu'a nous désignons, nous, par le terme travail dans l'existence humaine. Anthropologie, c'est le problème de l'être humain. C'est quoi l'homme ? L'anthropologie, c'est prétend dire et l'homme. Si on regarde le travail comme une donnée anthropologique, une donnée de la vie humaine, en fait, il y a deux perspectives. Il y a la perspective proprement occidentale, alors ça va être la première partie du cours, la mienne, c'est le côté droit du schéma que vous avez, le côté droit, par exemple, du schéma que vous avez sous les yeux, à savoir ce que nous avons appelé, je vais expliquer pourquoi, le point de vue essentialiste, qui est le point de vue occidental, où, en fin de compte, la notion de travail, alors je vais revenir du coup un peu sur Hegel, qui est un philosophe occidental, qui reflète assez bien cette position, hein, qui est intéressant à ce niveau-là, parce qu'à l'intérieur de ce point de vue essentialiste, il y a encore une distinction qu'on peut faire, hein, si vous avez le schéma, il y a peut-être le point de vue évolutionniste et le point de vue essentialiste proprement dit, ce que nous appelons nous le point de vue métaphysique. Donc je vais expliquer tout ça. Et je trouve que Hegel est intéressant parce qu'il est un peu sur les deux points de vue, donc ça permet d'avoir un exemple, hein, une philosophie qui permet de clarifier un peu cette position. Donc voilà, et d'un autre côté, ça c'est le côté gauche, et c'est Bernard qui va s'en occuper. Donc moi c'est la droite, Bernard c'est la gauche, voilà. Donc c'est Bernard qui va s'en occuper. Et c'est comme l'Assemblée nationale, hein, c'est ici. C'est Bernard qui va s'en occuper, et là, Bernard va être amené à partir du texte de Castres. Alors, moi, je m'en parlerai peut-être un peu du texte de Castres, mais très peu, parce que c'est plutôt, effectivement, le versant, ce qu'on appelle, que nous appelons le point de vue anthropologique, proprement dit, celui qui est ethnologue, cette fois, qui ne se confond pas avec le point de vue essentialiste. C'est-à-dire que les ethnologues, je vais essayer d'expliquer pourquoi aussi, en fin de compte, remettre en cause le point de vue occidental en parlant le concept fondamental en anthropologie, en ethnologie, c'est ce qu'ils appellent l'ethnocentrisme, en fait, qui permet à l'ethnologue d'avoir une sorte de distance par rapport à la culture, parce que lui est occidental évidemment, mais de prendre une distance par rapport à sa propre culture et pouvoir mieux regarder en elle-même la culture qui n'est pas la nôtre. Voilà, un peu, je vais expliquer un peu sur le détail, mais. C'est un concept, en fait, l'ethnocentrisme. C'est une posture que prend l'ethnologue qui lui permet de mieux regarder les cultures qui ne sont pas les nôtres en tant que telles, sans le regarder à travers notre culture. Il n'y a pas toujours, d'ailleurs, c'est très difficile. Donc ça, c'est plutôt Bernard qui va développer cet aspect-là. Et nous verrons, ça c'est la suite, et là, on terminera là-dessus, c'est pour ça qu'on a mis ça en bas. Nous verrons que à partir de là, peut-être qu'il peut avoir un intérêt, effectivement, de pas seulement de regarder l'importance du travail, la valeur du travail, si vous voulez, hein, ce que nous avons vu déjà dans le premier cours et que nous avons continué à voir aujourd'hui, mais peut-être d'aller voir cette fois-ci non, le travail lui-même comme source de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire et quel type de valeur le travail peut produire, hein. Ça va? Ça, c'est la présentation globale du cours qu'on veut vous faire aujourd'hui. Évidemment, à partir de là, puisque c'est la suite, on va débattre. On va débattre ensemble, on va vous laisser la parole. Je vois que Moustapha est là, donc je ne vois pas. Bonjour Moustapha, par rapport au point de vue essentialiste, puisque c'est mon propos, c'est plutôt mon propos. Par rapport au point de vue essentialiste, alors dans un premier point, c'est forcément un point de vue ethnocentrique, du point de vue de l'ethnologue, hein, puisqu'il s'agit d'aller voir à l'intérieur de notre culture comment, en fin de compte, on traite la notion de travail et à quoi renvoie la notion de travail à l'intérieur de notre culture elle-même. Ce que nous, on vachement évident, c'est que dans notre culture dite occidentale, oui, le point de vue est effectivement essentialiste, dans le sens, on l'a dit avec Hegel, dans le sens où le travail est utilisé comme, vous vous souvenez, comme médiation entre l'homme et la nature, pour pouvoir permettre à l'homme de matérialiser son humanité dans la nature. Donc, il va de soi, apparemment, dans notre culture, que le travail, non seulement a de la valeur, et c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose d'essentiel, mais même, mieux que ça, mieux que cela, c'est que c'est carrément le médiateur par lequel, en transformant la nature, par notre travail, la technique, etc., nous, en fin de compte, nous finissons par créer un monde humain. Alors, humain, ça veut dire que, déjà, on a une idée à la base de ce qu'est l'humain. L'humain n'est pas la nature, l'humain est extérieur à la nature, donc il y a une essence de l'homme, hein, qui permet d'être matérialisé, concrétisé, qui apparaît en fait dans le monde, alors qui ne peut apparaître que par le travail, que par son travail. Donc c'est bien un point de vue essentialiste, dans le sens où en fin de compte, on part du principe que l'homme est quelque chose, la nature en est une autre, et en fin de compte, on finit même par utiliser le terme nature d'une façon assez paradoxale, puisqu'on va distinguer la nature au sens de l'environnement, au sens du monde qui nous environne, des arbres, les montagnes, enfin toute l'image qu'on peut avoir lorsqu'on dit la nature, et ce qu'on appelle la nature de l'homme, qui cette fois-ci n'est pas du tout sans ça, hein, on n'a pas des arbres, des montagnes en nous, évidemment, ce n'est pas le propos, la nature de l'homme qui est l'origine, ce qui caractérise l'homme, ce qui distingue l'homme de la nature, justement, donc l'opposé. Hein. Pourtant, on utilise bien le même terme, on parle de nature de l'homme. Et donc, il semble que la notion de travail en Occident soit complètement tributaire de cette forme d'interprétation que nous appelons avec un art essentialiste, puisque, effectivement, elle part de l'idée qu'il y a une essence de l'homme, soit qu'il faut définir, soit qu'il faut qu'elle s'épanouisse, qu'elle apparaisse, qu'elle se concrétise à travers, justement, le travail. Donc, ça met, évidemment, ça met le travail dans une position très valorisante, très importante dans notre culture. Ce qui peut expliquer que c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, le sentiment que nous avons aujourd'hui, que c'est important d'avoir un emploi pour pouvoir vivre, survivre, mais aussi pour pouvoir avoir un statut social, mais aussi pour pouvoir participer au vivre ensemble, etc., ben, il n'est pas complètement, il n'est pas artificiel et il n'est pas complètement négatif dans le sens d'une aliénation, par exemple. C'est plutôt, ici, comme la libération de quelque chose. Je me sens libre parce que justement j'ai un emploi, que ça me pousse à aller un peu au-delà de moi-même, de mes impressions du moment, etc. Ce qu'on appelle l'expression de soi. Hein. Le fait de pouvoir s'exprimer soi-même, et de pouvoir, pas seulement s'exprimer par des mots, mais exprimer quelque chose de soi à travers son travail, etc. Avec tous les problèmes, évidemment, puisqu'on a vu que l'emploi, le problème du travail comme emploi, c'est qu'il est lié en même temps à une subordination, c'est-à-dire qu'on travaille pour quelqu'un, on travaille pas forcément pour soi, et qu'à l'intérieur de ça, bah, toute la difficulté est là, c'est comment je peux faire pour, tout en travaillant pour quelqu'un, bah, exprimer quelque chose de moi, hein, que ce soit malgré tout moi, dans mon travail. Mais on voit bien que toutes ces problématiques, en fait, sont bien liées à l'idée que, quand je dis moi, l'expression de soi, que le soi est quelque chose. Qu'il y a une essence. Hein. Que l'homme, en lui-même, en tant que tel, c'est pas rien. Il y a bien une essence. Une essence ici au sens de origine, nature. Alors, il se trouve que les choses sont un peu compliquées, en fait, dans la philosophie occidentale, parce que, à l'intérieur de ce point de vue que nous, on globalise, par le point de vue essentialiste, pour l'opposer, mais ça sera à propos de Bernard, au point de vue proprement anthropologique, ethnologique, qui est forcément ethnocentrique. Pourquoi? Parce que, il est ethnocentré parce que forcément il est centré sur notre façon en Occident de vivre. Ethnocentré, ça veut dire le ethno, c'est le groupe, et donc centré sur le groupe, ici sur notre groupe. Alors là, par contre, il y a une difficulté que je veux lever tout de suite parce que sinon je crains qu'on ait des sortes de débats qui ne sont pas vraiment des débats. Il y a quand même une difficulté à l'intérieur de ça, c'est qu'il ne faudrait pas croire que l'ethnocentrisme, tel qu'il est montré par les anthropologues, serait propre à l'Occident. Alors, c'est vrai que beaucoup d'anthropologues, je pense à Lévi-Strauss, entre autres, qui en a beaucoup parlé, dans Race et Histoire, par exemple, Lévi-Strauss a été invité, après la guerre d'Algérie, à se prononcer sur Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal l'immigration de l'Algérie? Donc il a fait une conférence qui est publiée sous la forme d'un petit traité qui s'appelle Race et Histoire, où il explique justement que le colonialisme, le racisme, le rejet de l'autre vient de l'ethnocentrisme occidental. Mais attention, il faut être prudent sur cette question-là, parce que du point de vue même de Lévi-Strauss, l'ethnocentrisme est universel, il n'est pas propre à notre culture. Il est vrai pour toute culture. C'est-à-dire que ce rejet, cette tendance, alors c'est pas un rejet d'ailleurs, c'est une tendance à valoriser notre façon d'être, notre façon de vivre. C'est-à-dire qu'on a du mal, en fait, à ne pas considérer que nos valeurs, notre façon de vivre, d'être, nos idées, sont pas plus importantes ou plus intéressantes que d'autres dans d'autres cultures, mais c'est pas vrai seulement pour l'Occident, c'est vrai pour d'autres cultures. Même si pour nous c'est difficile à imaginer, mais c'est bien comme ça que ça se passe. C'est-à-dire pour une culture qui n'est pas la nôtre, ils ont le même sentiment. Nous, on vit pas bien. Eux vivent bien. Donc, il faudrait pas voir ça comme étant une sorte de flagellation de l'Occident. Hein, le discours, c'est absolument prudent. C'est juste pas dire que nous sommes méchants avec nos centristes. Non, c'est un phénomène, les centristes. C'est propre à toute culture. C'est propre à la culture occidentale. Alors, cette petite ambiguïté levée, où on voit bien que l'ethnocentrisme est un concept, en fait, un mécanisme, si vous voulez, qui est propre à toute culture, qui est pas propre à l'Occident, on ne peut pas y échapper. En même temps, c'est vrai, on vit en fonction de valeurs, donc comment ne pas donner de l'importance aux valeurs par lesquelles on vit? Ça paraît impossible, évidemment. C'est ça, l'ethnocentrisme. Ça va? Il faut que tout est lié à l'idée d'essence de l'homme en Occident, à l'idée qu'il y a une essence de l'homme, avec cette idée qu'il y a la nature d'un côté et l'homme en face, et que le travail va permettre justement à l'homme de maîtriser la nature, de pouvoir créer un monde qui soit plus proche, effectivement, donc ça veut dire quelque chose d'important. Simplement, à l'intérieur de ça, il y a effectivement deux courants qui compliquent un peu les choses, et du coup, on voit pas toujours les problèmes. Alors, je vais expliquer. Soit vous êtes dans un courant proprement essentialiste, ce que nous appelons, nous, avec Bernard, le courant métaphysique, le point de vue métaphysique. Voilà, c'est la droite, c'est l'extrême droite, sur le schéma que vous avez. Proprement métaphysique, considère qu'effectivement, en fin de compte, non seulement l'homme a une essence. Alors, pour vous donner un exemple concret d'une philosophie proprement ethnocentrique dans ce sens-là, il y a Hegel, évidemment, mais il y en a un encore beaucoup plus radical qu'Hegel, c'est Descartes. C'est-à-dire que, non seulement, il y a quelque chose dans l'homme qui est propre à l'homme, qu'on ne va pas trouver chez les animaux, qu'on ne va pas trouver dans le monde physique, qu'on va donc appeler métaphysique, l'âme. Mais en plus, l'idée que nous avons d'âme, qui est proprement occidentale, d'accord, elle est universelle. Elle ne peut pas être autre. Donc là, on est vraiment dans un courant très très intégriste, entre guillemets, dans cette position-là, où on montre que, du coup, alors là, je vais traduire les SP, NS, ça, c'est un peu le côté mathématique de Bernard, donc, du coup, on a fait des équations, voilà. Mais je vais vous remonter sur le côté gauche, pour le coup, pour comprendre. C'est-à-dire que SP, ça désigne des sociétés primitives. C'est pour gagner sur le tableau, ça va? Et NS, c'est notre société. Ça va? Voilà. Une fois qu'on a ça, on va comprendre l'équation. Si vous êtes dans le courant essentialiste, ethnocentrique et métaphysique, ça va? Descartes. Oui. L'homme a une âme, et l'âme est précisément ce qu'en dit l'Occident, rien d'autre. Et d'ailleurs, après Descartes, on a eu beaucoup de difficultés à reconnaître, par exemple, les Indiens d'Amérique latine, même d'Amérique du Nord, comme des êtres humains, puisqu'ils ne correspondaient pas à l'idée d'âme de Descartes. Donc, là, on est dans un courant très fort, très fortement ethnocentrique. Et là, on voit quoi? On voit que SP, donc les sociétés dites primitives, elles sont différentes, elles naissent de notre société, mais en plus, elles sont moins. On n'est même pas sûr qu'elles soient elles-mêmes. On ne sait pas. Alors, Descartes était prudent sur cette question-là, c'était préhumain. Bon, préhumain, alors, il y a quelque chose... Préhumain, mais chez Descartes, ça veut dire, voilà, il manque quelque chose. Par contre, alors, il y a très très peu, c'est plus chez Rousseau que Descartes, il y a très peu de thèses de Descartes sur la différence culturelle, sur la diversité culturelle. Par contre, Il y a bien l'idée, on s'est souvent servi de cette conception-là, par exemple, pour montrer qu'effectivement, il manque quelque chose pour que les êtres humains qui vivent dans des cultures qui ne sont pas trop éloignées de nous soient véritablement humains. Ils sont plus proches de l'animal que de l'humanité. Ça va ? Donc, c'est des cultures différentes et qui ont moins, parce qu'elles sont différentes, ont moins de valeur que nous. Mais c'est parce que nous prenons comme critère ou comme définition de l'homme une définition qui est occidentale, comme étant absolue. Ça va ? Je n'ai pas perdu, c'est bon ? Bien. Donc ici l'équation c'est SP différent de NS et moins que NS. Ça va ? Une sorte de rejet. Alors évidemment, Lévi-Strauss va utiliser cette conception-là pour montrer d'où vient le colonialisme, d'où vient le racisme, comme origine en fait, du racisme, du colonialisme, et de tous les génocides qu'il y a pu avoir, où effectivement une tendance à se protéger de ce qui est moins, de ne pas mélanger le moins avec le plus. Faire attention à cela. Et d'ailleurs, le colonialisme, c'est ce qu'on appelle, il y a eu tout un débat avec les profs d'histoire, les collègues d'histoire, on se fait débat il y a quelques années, 4-5 ans, où il y avait une loi qui a essayé de passer, je ne crois pas qu'elle soit passée, il y a un décret, je crois, mais ce n'est pas vraiment une loi, enfin, c'est une invitation, mais ça n'a pas marché, puisque ça ne fonctionne pas, voilà, dans les mêmes lieux d'histoire, où par décret, on a décidé qu'il fallait mettre un paragraphe dans les manuels d'histoire qui montre le côté positif du colonialisme. Donc, de ce débat, non, c'est gênant, parce que c'est quoi et c'était bien l'argument. C'est que comme nous on est plus, eux ils sont moins, le fait d'aller les coloniser, ben, ça leur apportait du plus. Vous voyez ? Évidemment, les historiens, c'est pas passé. Les profs d'histoire, c'est pas passé. Donc, apparemment, il y a quelques manuels qui ont joué le jeu, mais très peu, au bout du compte. Débat intéressant, évidemment. Parce que les profs d'histoire étaient eux-mêmes amenés à se prononcer sur la question. Là, c'est plutôt la dérive, mais il faut pas non plus, tout réduire à cela. C'est une position intéressante parce que tout ce quand même a essayé de caractériser l'homme, définir l'homme, etc. Et ça a eu des implications, on ne va pas refaire tout le cours qu'on a écrit sur Descartes, mais il y a quand même des implications intéressantes à faire là. Donc ça c'est un courant un peu, voilà. Ensuite, alors ce qu'on appelle le courant évolutionniste, là ça se rapproche beaucoup plus de Hegel, évolutionniste qui amène l'essence de l'homme. Par contre, l'idée que cette essence serait d'emblée, au départ, ce qu'elle va être par le travail, par l'expression de soi, par la manière dont l'homme va maîtriser la nature, etc. Ensuite, c'est moins clair, c'est-à-dire une évolution. Il y a une évolution, l'histoire va intervenir. Et du coup, si on regarde le rapport avec les sociétés dites primitives, elles sont bien considérées comme différentes. Mais, vous voyez, on a mis puis égal, c'est-à-dire elles sont différentes, par contre, la porte est ouverte, elles peuvent évoluer. C'est M. Sarkozy qui, lors de ses premiers discours en Afrique, parce que l'Afrique n'a pas d'histoire, c'est son problème, dès qu'elle aura une histoire, elle va nous rattraper, elle sera comme nous. Donc ça veut dire, les autres ne sont pas différents de nous au sens de différents de nature. Ce sont des animaux, non. Ils sont différents de nous, mais pour l'instant, ils peuvent évoluer. Il y a une évolution possible. Cela dit, ça reste essentialiste dans le sens où le critère, c'est nous, par contre. Vous, l'être humain, faites ce qu'il faut pour être comme nous. On verra après. Oui. Autrement dit, là, c'est l'idée, évidemment, ça valorise plus les autres. On les sort pas de l'humanité. On dit, vous êtes humain. Mais vous ne vivez pas encore comme doivent vivre les êtres humains. Regardez-nous et suivez-nous et vous allez y arriver. Alors, évidemment, c'est via la matérialisation. Lévi-Strauss a très bien analysé ça aussi, évidemment. C'est ce que Lévi-Strauss, dans le triste tropique, appelle justement la mondialisation. Hein. Le fait que les cultures diverses au départ finissent par la mondialisation devenir un peu comme l'Occident, un peu partout. Des McDo un peu partout, voilà, et ça se généralise. Hein. Mais avec cette idée, alors c'est jamais dit de manière explicite d'ailleurs, sauf que M. Sarkozy, lui, il a osé, voilà, mais c'est jamais dit de manière aussi explicite, c'est toujours plus sous-entendu. C'est-à-dire qu'il y a bien l'idée d'une évolution et même l'idée qu'on peut aider, qu'on va vous aider, qu'on va vous donner les moyens de tenir une main et de vivre comme nous, comme si notre modèle de vie était le modèle. Pas un modèle, mais le modèle. Mais on voit bien que ça veut dire qu'au bout du compte, on considère notre modèle de vie en tant qu'être humain ici en Occident encore comme ce que doit être l'homme. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est encore un point de vue essentialiste. Mais évolutionniste. On n'est plus obligé d'être métaphysicien. On ne parle pas d'âme. On parlera de progrès. Les êtres humains, ils sont d'abord livrés par la pêche, la cueillette, l'environnement. Puis ensuite, les choses se compliquent. Ils vont créer des machines. Enfin, c'est l'Occident, évidemment. Ils vont créer des machines. Et puis, les choses se compliquent. Et à partir de ces machines, on va pouvoir mettre en place tout un système d'emploi, etc. Tout un système d'organisation, d'échange de marchandises qui va permettre à pouvoir faire en sorte que le maximum d'individus aient le meilleur niveau de vie possible. Alors, il y a des sociétés qui arrivent, d'autres pas, et voilà. Mais toutes les sociétés peuvent y arriver. C'est ça l'idée qu'il y a. Mais on voit bien que la façon dont on est être humain en Occident est encore la norme. C'est une norme, en fait. Ça va ? Donc, on est bien dans un courant à la fois ethnocentrique, c'est-à-dire centré sur nous, mais cette fois-ci évolutionniste, c'est-à-dire on ne dit pas que celui qui vit pas comme moi, celui qui appartient à une autre culture, ne serait pas humain, n'aurait pas les conditions requises pour devenir éventuellement pleinement humain. On ne dit pas ça, au contraire. Ce qui permet de dire d'ailleurs dans ce courant-là, je ne suis pas raciste. Simplement ce que je dis, c'est que moi, je vis dans une société évoluée, je demande aux autres d'évoluer, c'est tout. C'est pas du racisme. Le racisme, ça, Lévi-Strauss a bien montré, le racisme c'est vraiment l'idée de catégoriser, c'est vraiment des races supérieures, inférieures, donc des races qui par essence de toute façon ne peuvent pas, n'ont pas les conditions d'y arriver. Ce qui d'ailleurs, c'est pas le racisme, c'est le racialisme au départ, donc c'est un peu compliqué, mais le racisme par contre à la fin du 19e naît de ça, naît de cette idée-là. Et c'était une façon d'ailleurs pour les racistes, là je parle pas des racistes au sens où on dit la vie quotidienne, vous savez, des racistes négatifs, je parle des racistes, à la fin du 19e, c'était positif d'être raciste. C'est pas du tout négatif. Parce qu'être raciste, c'était de mettre chacun à sa place et de voir ce que les meilleurs peuvent faire pour ceux qui sont pas bons. Donc il y avait un côté comme ça, nous on a de la chance, on fait partie des meilleurs, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour aider ceux qui sont pas bons alors tout ça, avec Thoré, évidemment, à la fin du 19e, début 20e, jusqu'à Lumière, avec tout le drame qu'on connaît. Donc là, on voit bien que c'est plutôt les sociétés dites primitives sont différentes des nôtres, mais puis égales. Ça veut dire qu'elles peuvent le devenir, par contre. Alors, pour finir, les deux, en fait, quand on regarde, les deux aboutissent un peu à la même chose, c'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est vrai, par rapport à la notion de travail, c'est un très bon exemple, au bout du compte, dans cette façon d'aborder les choses, essentialistes, nous appelons essentialistes, au bout du compte, tout va se résoudre sur des questions morales ou politiques. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le problème, là on trouve les guettes, c'est-à-dire que le problème n'est pas tant ce que sont les uns et les autres, que l'organisation politique, mais sociale au sens politique, ici que l'organisation à travers un État politique, etc., que l'organisation de tout cela pour le vivre ensemble, mais autour de valeurs dites morales. C'est-à-dire qu'il faut arriver à vivre comme doit vivre un homme, comme doit vivre un homme. Donc il s'agit bien d'atteindre des valeurs de type moral, puisqu'on emploie bien le terme droit. Nous devons vivre, il y a des normes, pour être véritablement humain, ben, il faut savoir parler, il faut savoir écrire, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir discuter avec les autres, il faut acquérir un certain nombre de connaissances, pour faire de la science, tout ça ce sont des valeurs morales au fond. Ça va ? Donc la question du travail par exemple devient une question morale. aborder ça dans le prochain cours, hein, le cours d'après, mais le même question morale, c'est que si on prend le travail, voilà, pour finir, si on prend le travail par exemple, on va pouvoir montrer que si on est dans la position, et si on est sincère, ils sont d'accord, la position occidentale, la nôtre. On va montrer que bon, bah, on peut faire toutes les critiques qu'on veut du travail, mais il n'empêche que voilà, le même exemple concret, on détaillera peut-être plus après, plus tard, un exemple concret, il n'empêche que bah, celui qui a un travail, on ne regarde pas les conditions du travail, on regarde ce qui se passe lorsqu'il perd un travail. Celui qui a un travail, non seulement il transforme la nature, mais il se transforme lui-même. Celui qui n'a pas de travail, ben, il est paresseux, par exemple, il n'aura pas de discipline, il ne va pas organiser sa vie. Celui qui a un travail, on le voit bien dans la vie de tous les jours, ben, ça peut l'aider à maîtriser ses désirs, ses pulsions, à vivre avec les autres, à s'entendre avec les autres. Donc ça fait émerger les valeurs morales. Le travail devient source de valeurs morales. Par le travail, je deviens moral. Je maîtrise mon comportement. Je sais pas, moi ça m'a toujours frappé, vous savez, les jeunes souvent qui ont un peu de mal à chercher du travail. Je sais pas, quand je dis jeune, je n'ai pas fier parce que je connais des gens aussi de certain âge qui sont dans cette position-là. Je ne suis pas pressé d'aller travailler. Donc, quand on parle avec ces gens-là, bah, on a une sorte de malaise parce que, en fin de compte, ça nous paraît négatif, leur attitude, bah, ils ne s'intéressent à rien, ils restent devant la télé, ils ne sont pas vraiment conviviales. Alors que le fait d'avoir un travail, de se lever le matin, de, oui, ça nous rend social, ça nous aide à nous maîtriser, de ne pas faire n'importe quoi, etc. Donc le travail devient sourd, voilà, de ce point de vue-là. Vous voyez l'idée ? Mais on voit bien que le problème est moral. On est très très loin de tout ce qu'on a vu avec Marx, par exemple, avec Bernard, Marx et Bernard. On est très très loin d'une position où on va interpréter le travail comme étant, on va regarder l'organisation comme un mode d'organisation sociale et voir s'il n'y a pas derrière ça une forme d'aliénation, d'exploitation, de spoliation. Là, non, c'est ce qu'on observe que les individus, hein, vous vous souvenez, la distinction entre le ressenti qu'on a et ce qui se passe derrière. Pas la même chose. On y reviendra, hein, c'est important. Il y a là, c'est en face du ressenti qu'on a, ben, le problème apparaît plutôt moral. C'est-à-dire qu'on voit bien que celui qui a un travail, un emploi régulier, etc., il vit mieux, mais pas seulement mieux matériellement, il vit mieux moralement que quelqu'un qui n'a pas de travail, qui se laisse aller, qui est paresseux, qui n'est pas social, etc. Vous voyez ? Ça va ? C'était pour donner un exemple pour illustrer, mais on verra qu'il y a d'autres choses à l'intérieur de ça. Donc, il semble que le point de vue essentialiste aboutissent à des règlements lorsqu'il y a des problèmes, hein, au niveau, ben, de l'organisation du travail, elle est même plutôt moraux, en fait, d'essayer de trouver des réponses morales, hein, plutôt que d'ordre économique, par exemple. Voilà. Est-ce que ça va? De toute façon, on va débattre après. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions?
Je vais donc essayer de développer notre point de vue pour vous indiquer quand même l'enjeu de ce dont nous sommes en train de parler. On va parler de Charlie Hebdo. Je ne suis pas allé à la manifestation. Notre rôle en tant que philosophe n'est pas de vous conforter dans une émotion justifiée et positive. Et notre rôle n'est pas de vous conforter là-dedans. Parce que sans que vous vous en rendiez compte, et peut-être volontairement, et peut-être ne le saviez-vous pas, vous avez défilé derrière des mots d'ordre tout à fait essentialistes et métaphysiques. Or, ces mots d'ordre, je ne peux pas défiler derrière, parce que je les combats. D'où il est tout à fait inadmissible que l'on tue des personnes parce qu'elles ont exprimé un désaccord avec quelque chose. Cela, il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne suis pas un lecteur de Charlie Hebdo, mais ceci dit ne m'empêche pas de condamner l'agression qui a lieu contre les membres de Charlie Hebdo. Par contre, il est vrai qu'un peu par sentimentalité, je ne suis pas tout à fait favorable aux défilés, et encore moins quand ils sont organisés par les pouvoirs publics, qui pour une part sont responsables de ce qui arrive. D'où, mais ça n'était pas le problème principal. C'est que je ne peux pas défiler derrière une justification des droits de l'homme comme valeur universelle. Y a-t-il, on le verra, plusieurs manières d'être un homme. C'est l'enjeu. Dans le point de vue anthropologique, le texte de Clastres que vous avez derrière prend l'exemple de ce qu'on appelle justement lié au travail, les sociétés de subsistance. L'idée, qui est proprement occidentale et ethnocentrique, à savoir que les sociétés primitives, leur problème principal, c'était de survivre. Et que pour eux, le fait de devoir subvenir à leurs besoins les occupait à temps plein. Or, c'est tout à fait faux. Les sociétés primitives travaillaient très peu. Vous avez Salins, qui est un ethnologue philosophe français, qui a écrit « Société primitive, société d'abondance ». Il dit « Ces sociétés sont pauvres, mais elles ne manquent de rien. Nous sommes riches, mais nous manquons de tout. Nous n'avons jamais ce dont nous disons que nous avons besoin pour vivre. Nous sommes toujours en train de chercher à satisfaire des besoins. Les sociétés primitives avaient peu de besoins. Alors le problème, est-ce qu'ils en avaient peu parce qu'ils en manquaient, ou est-ce qu'ils en avaient peu parce qu'ils n'en voulaient pas? C'est-à-dire que la différence qu'il y avait entre notre structure sociale et la leur est-elle de leur part un manque? Ils n'ont pas évolué assez. Ou est-elle quelque chose de positif? C'est-à-dire que c'était un refus de leur part de consacrer plus de temps qu'il n'était nécessaire à la satisfaction de besoins qui, pour eux, est insuffisant. Et qu'en particulier, la nécessité d'un surplus. Nous, il nous faut toujours plus. Il nous faut toujours plus. Eux, il ne leur fallait pas toujours plus. Alors, c'était favorisé par le fait que la plupart du temps, ces sociétés-là étaient des sociétés nomades, et que donc, moins il y en a à transporter, et mieux ça vaut. Donc, on ne court pas après le surplus. Et si on a de quoi manger, si on a de quoi se vêtir, si on a de quoi se protéger, c'est bon. Ça suffit. Les sociétés primitives, d'après les ethnologues ou les anthropologues, consacraient à peu près tous les deux jours, 4 heures à la recherche de la satisfaction de leurs besoins. Le reste du temps, que faisaient-ils? Ils chantaient, ils causaient, ils parlaient. S'il y avait du surplus, ils dépensaient. Voilà leur mode de vie. Ce mode de vie n'est bien évidemment pas le nôtre. Mais comment l'interprétons-nous? Est-ce que nous l'envisageons comme étant un mode de vie qui, précisément, comme l'a dit Didier tout à l'heure, est lié à un moment historique, mais que tôt ou tard, ils vont ressentir cela comme un manque? Ils ne sont pas tout à fait développés. S'ils étaient développés, ils chercheraient comme nous à développer leurs besoins. Or, vous lirez le texte de Clastres, qui indique que précisément non, on ne peut pas interpréter leur, leur comportement de ce type. C'est un véritable refus de leur part. Parce qu'ils ressentent une telle perspective comme quelque chose qui ne correspond pas à leur réalité. Donc ce n'est pas un manque, mais c'est un refus positif de leur part. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs manières d'être un homme. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être un homme. Et dans le point de vue évolutionniste que Didier a pointé tout à l'heure, bon, bien sûr, on est très généreux envers ces sociétés différentes. Non, non, vous n'êtes pas comme nous, mais vous inquiétez pas. Vous avez tout ce qu'il faut pour devenir comme nous. C'est-à-dire que l'idée que la ligne évolutive de l'humanité, il n'y en a qu'une, c'est celle que nous avons empruntée. Et nous avons la chance, comme par hasard, d'être ceux qui sont rendus les plus loin. Bien. Certaines sociétés ne sont pas encore rendues tout à fait au même niveau que nous. Mais, qui ne s'inquiète pas, ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver. Simplement, quand vous aurez grandi, quand vous aurez mon âge, donc on les traite comme des enfants. On les traite comme des enfants avec tout le respect que l'on doit à notre progéniture. Bien, mais quand vous aurez mon âge, vous serez comme moi. Donc il n'y a qu'une manière d'être un homme. Et comme il n'y a qu'une manière d'être un homme, bien sûr que les droits de l'homme ne peuvent être qu'uniques et universels. Mais imaginons qu'il y ait plusieurs manières d'être un homme et que la façon dont nous avons dans nos structures sociales organisé notre humanité, eh bien, soit une manière parmi d'autres de l'organiser. À ce moment-là, quand les Chinois répondent à je ne savais plus trop quel homme politique français qui est en train de les titiller sur les droits de l'homme, les Chinois lui répondent, mais monsieur, nous avons nos propres droits de l'homme. Est-ce une expression qui n'a pas de sens? C'est qu'il ne peut pas y avoir plusieurs droits de l'homme. Ou est-ce que c'est l'attitude qui est la nôtre, qui est erronée, qui continuons à penser que en fait, il n'y a qu'une seule manière d'être un homme, la nôtre. Nous pouvons progresser. On ne dit pas qu'on a tout fait. On ne dit pas qu'il n'y a pas une progression possible. Mais sur la base de ce que nous sommes, nous, déjà devenus. Et il ne peut pas y avoir une ligne qui aboutit à nous et une ligne qui n'aboutit pas à nous, qui est différente, et où les hommes s'organisent différemment, et où ils ne cherchent pas le surplus, et où ils ne cherchent pas, on le verra plus tard, la valeur d'échange. Ce n'est pas l'argent qui les motive. Et ça n'est pas l'argent qui les motive, non pas parce qu'ils en manquent, mais parce qu'ils n'en veulent pas. Donc c'est là la différence, si vous voulez, entre le point de vue évolutionniste, mais qui reste un point de vue ethnocentrique, et le point de vue anthropologique, où il n'y a pas de nature humaine. Il n'y a pas de nature humaine que le travail ne permettrait de réaliser. Et là, ça n'est plus Hegel, mais c'est Marx. Bien sûr, par le travail, je réalise un type d'humanité. Mais un type d'humanité, ça ne veut pas dire le seul possible. Il y a plusieurs manières d'être un homme. C'est une question à laquelle je vous demande de réfléchir, que la réponse n'est pas évidente. Et en plus, la réponse, au niveau de ce que ça implique, socialement, politiquement, c'est lourd de conséquences. Mais vous comprenez pourquoi je ne peux pas défiler derrière la défense des valeurs universelles, liberté, égalité, fraternité. Parce que j'ai une certaine connaissance de l'histoire et que ces valeurs datent de 89 et qu'elles ont été mises en place par une classe sociale qui est dominante depuis cette période et qui structure notre organisation sociale. Et que on peut les considérer comme des valeurs universelles. On peut aussi les considérer comme la manière dont une classe sociale qui est en train de prendre le pouvoir contre la féodalité dans notre structure sociale organise sur le plan idéologique l'instauration de son propre pouvoir. Et comme tout discours idéologique, à la fois il désigne ce dont il parle et à la fois il en camoufle la réalité structurelle. Liberté. Liberté, est-ce que celui qui cherche un emploi est libre de choisir son emploi ou de ne pas le choisir? On vous propose un emploi dans une structure, vous ne savez pas trop ce que vous allez faire, éventuellement vous savez ce que vous allez faire, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Est-ce que vous choisissez votre entreprise? Est-ce que vous avez la liberté de choisir votre entreprise? Ou est-ce que vous n'avez que la liberté de dire oui à celui qui vous en offre la possibilité? Est-ce que la liberté est la même pour celui qui offre l'emploi et pour celui qui l'accepte? Égalité. Y a-t-il égalité entre les deux membres qui vont effectivement faire un contrat d'emploi? Où est l'égalité? Par contre, l'égalité, oui, c'est que l'individualité, la singularité, que ce soit à temps plein, que ce soit à temps plume, que ce soit à temps flex, qui accepte mon emploi, moi en tant qu'employeur, si je fais le boulot, je m'en fiche. D'où l'égalité, c'est que vous êtes interchangeable. Vous êtes interchangeable. Votre singularité, je m'en moque. Parce que je ne vais pas vous demander de déterminer ce que vous allez faire. Je vous dis que vous allez faire ça. Si vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de le faire. Mais il y en a combien qui sont capables de le faire? Que ce soit vous ou un autre, peu importe. Quant à la fraternité, le problème de la fraternité, c'est un mot d'ordre qui cache une réalité que certains actuellement nient, mais qu'il est peut-être difficile de nier. Sommes-nous encore dans notre structure sociale dans une structure de classe? C'est-à-dire que dans notre structure sociale, nous ne faisons pas tous partie du même monde. Et qu'il y a ceux qui ont le pouvoir de dominer et il y a ceux qui subissent ce pouvoir. Donc, à ce niveau-là, suis-je le frère? Ai-je un rapport fraternel avec mon employeur. Ai-je un rapport fraternel avec ceux qui exercent sur moi une aliénation, une exploitation, une domination? Où est la fraternité? Le postulat sous-jacent au libéralisme économique qui nous gouverne depuis le XVIIIe siècle, même un peu avant, c'est que l'individu est principalement déterminé par la poursuite égoïste de son intérêt individuel. C'est ça qui fonctionne. Et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Il ne faut pas trop s'en mêler du reste. Or, est-ce là un rapport fraternel? Un rapport fraternel à l'intérieur d'une structure familiale? Est-ce que les frères et sœurs, entre eux, ont ce rapport où chacun est déterminé par la poursuite individuelle de son intérêt égoïste? Je pense que dans les trois quarts des familles, plus une bonne moitié du reste, ça n'est pas le cas. D'où, pourquoi cette contradiction? Pourquoi cette contradiction? Eh bien, c'est que l'un camoufle la réalité de l'autre. D'où, moi, défiler derrière le mot d'ordre d'une classe qui organise son pouvoir, excusez-moi, mais ce n'est pas ma tasse de thé. D'où, je refuse ces mots d'ordre. Il faut se battre contre le terrorisme. Oui, bien sûr, à condition de savoir de quoi on parle. Le terrorisme, c'est une arme de guerre, c'est une stratégie de guerre, c'est un comportement de personnes ou de groupes qui sont en état de guerre. Mais le terrorisme a été utilisé par les résistants français en Allemagne contre les Allemands lors de la dernière guerre. Le terrorisme a été utilisé par le FLN dans la lutte de libération nationale. Le terrorisme a été utilisé par l'OAS pour combattre cette revendication du FLN de libération nationale. Donc le terrorisme en tant que tel, c'est une stratégie de guerre. Et c'est en général une stratégie utilisée par l'armée qui n'est pas en position de force. D'où on peut effectivement condamner les effets du terrorisme. Mais l'important n'est pas la stratégie de guerre. C'est qui, comment? C'est pas le fusil. Vous pouvez vous battre contre un fusil si vous voulez. Battez-vous contre l'existence des fusils. Mais battez-vous plutôt contre ceux qui sont derrière et qui vont tirer. Or là, on était beaucoup moins prolixe pour indiquer de qui il s'agissait, et que l'unité aurait peut-être été moins forte, où il aurait fallu expliquer quel rapport il y avait entre les rapports de domination d'une structure sociale et le phénomène religieux. Le phénomène religieux qui n'a pas toujours ses dérives fondamentalistes. Mais quel est le rapport, quel est le lien entre le phénomène religieux lui-même et la dérive fondamentaliste qui peut surgir sur la base de ce rapport religieux? Le catholicisme l'a connu à son époque. Vous me direz, mais aujourd'hui, il ne le connaît plus. Est-ce qu'il ne le connaît plus parce qu'il n'existe plus comme possibilité? Ou est-ce qu'il ne le connaît plus parce que, tout simplement, dans l'évolution du rapport de force, eh bien, on préfère se battre autrement? Mais que si le rapport de force devenait différent, eh bien, est-il tout à fait impossible que cette dérive ne ressurgissent pas? Et là, il faut être très confiant, pour répondre non à ma question. D'où, si vous voulez, en tant que philosophe, si je n'ai pas à vous conforter dans une émotion qui en tant que telle est positive, je ne nie pas le caractère positif, si vous voulez, des manifestations qui ont eu lieu le 11 janvier. C'est un moment d'émotion forte, et sans émotion, il n'y a pas de pensée. Mais sans pensée, l'émotion est dangereuse. Et en tant que philosophe, notre rôle est d'essayer de vous donner les outils théoriques qui vous permettent, qui vous permettront, qui vous permettraient de dépasser ce moment émotif considérable en tant que tel positif, je ne le nie pas, mais qui, à lui seul, ne suffit pas pour comprendre de quoi il s'agit. Et c'est toutes ces raisons qui ont fait que j'avais autre chose à faire. J'avais autre chose à faire. Donc, je ne suis pas allé manifester. Et je ne le regrette pas. Oui ? Attendez, parce que là, par contre, je ne vous entends pas.
Le dimanche avec la foule qui a manifesté et le monde. Et je dois dire que c'était en connaissance de cause et que je n'étais pas submergée par mes sentiments, mais que moi j'ai toujours une pensée politique. Bon. Et je ne vois pas bien pourquoi vous avez refusé. Je ne comprends pas bien quels sont vos raisons.
Ben, j'ai essayé de vous l'expliquer, je ne vous demande pas de l'accepter. Je ne vous demande pas de l'accepter et j'imagine très bien que parmi tous les manifestants, il y avait des gens qui étaient capables de réfléchir. Mais je prends encore un autre mot d'ordre. Je pense donc je suis Charlie. C'est une aberration. Alors je pense donc je suis Charlie, on veut récupérer des cartes. Mais je regrette, mais Charlie, ceux qui s'attaquent à Charlie pensent. Ils ne pensent pas comme moi. C'est entendu. Mais de quel droit est-ce que je peux dire que pour penser, il faut se mettre du côté de Charlie? Et que ceux qui l'ont tué, ceux qui ont tué les dessinateurs de Charlie, de quel droit puis-je dire qu'ils ne pensent pas? L'ennemi contre lequel je me bats, le meilleur moyen d'arriver à me battre contre lui, c'est de ne pas le minimiser. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que vous êtes une imbécile et que vous ne pensez pas. Par contre, je dois essayer de comprendre pourquoi, pensant aussi bien que moi, peut-être même mieux que moi, vous n'arrivez pas à la même conclusion que moi. Ça, c'est un point de vue philosophique et anthropologique. Par contre, si je dis « vous ne pensez pas comme moi », c'est que vous ne pensez pas du tout. Ou que deux, vous pensez mal. Ou que trois, vous n'avez pas les informations que j'ai. Mais en imaginant que vous soyez à équivalence avec moi, au niveau de la formation, au niveau de l'information et au niveau de votre capacité de penser, rien ne m'autorise à dire que vous allez obligatoirement finir par penser comme moi. Pour une simple raison, c'est que votre corps n'est pas le mien. Et que je ne suis pas qu'une tête, je suis aussi un ensemble de viscères. Je suis effectivement un ensemble d'émotions et un ensemble d'intérêts. Et que tout cela, on le verra la prochaine fois avec les sources de valeur, eh bien, je tends à le nier. Je tends à penser que que ce qui me détermine, c'est ce dont j'ai conscience, mais qu'il y a toute une partie de moi dont je n'ai pas conscience, mais qui est là, et qui me constitue, et qui est le résultat de mon histoire, et que votre histoire ne peut pas être la même que la mienne. Votre mère n'était pas la mienne, vos frères et sœurs n'étaient pas les miens, votre univers n'était pas le mien, donc vous ne pouvez pas être comme moi. Et donc en pensant mieux que moi, avec des informations plus complètes que les miennes, avec une formation plus totale que la mienne, avec une intelligence beaucoup plus grande que la mienne, je n'ai aucun droit de dire que vous avez tort d'arriver à la conclusion que vous faites. Et que votre conclusion, pour vous, s'impose. Mais que moi, je ne l'accepte pas.
Question.
D'où, là, nous avons, si vous voulez, la différence entre le point de vue essentialiste que Didier a essayé de développer, et le point de vue anthropologique que j'essaie de développer, c'est que l'homme n'est défini nulle part. Alors, bien sûr, ça implique aussi une forme de refus d'un Dieu qui aurait pensé l'homme et que l'homme aurait une essence et réaliserait un projet pensé par quelqu'un d'autre que lui. De ce point de vue, effectivement, c'est une... Par contre, moi c'est mon point de vue, eh bien, l'homme ne réalise aucun projet autre que ceux qu'il se constitue lui-même, collectivement, socialement, historiquement. Et que donc, il peut y avoir une multiplicité de points de vue. Oui.
Bonjour, bonjour. Donc c'était pas, à mon avis, il n'y avait pas de mot d'ordre, c'était pour moi une marche ensemble. Alors je vais dire quoi, j'allais vite, hein. C'était pour la mémoire des profondeurs des idées reçues, et moi je dirais que c'était mon rôle de participer pour marquer un temps d'arrêt, et que je pense qu'on pense comme vous, vous nous apprenez l'esprit critique. C'est exactement de ça dont il s'agit, je pense. C'est dans votre cours, donc là-dessus, moi je suis optimiste, il y a beaucoup d'esprit critique dans pas mal de livres dans, pour dénoncer la pensée unique, etc. Pour moi, tout ça c'est parce qu'on laisse les quartiers populaires en déshérence depuis des années, on le sait tous ici à mon avis. Moi j'aurais aimé vous parler aussi du principe de laïcité, et j'aurais aimé aussi dire qu'on a tous été mobilisés, enfin on a été énormément mobilisés. Je connais pas mal de gens qui pensent comme vous et qui, sur le problème de Charlie, trouvent qu'ils appuient un peu trop sur la pédale, donc on peut aussi le dire de temps en temps. Mais une fois qu'on a dit qu'il y avait 110 000 personnes ensemble, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on entend dire dans les médias que les quartiers populaires sont laissés pour compte, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on remarche dans quelques temps, ça va se reproduire. Je ne parle pas du problème de l'armement, parce que de toute façon, si on... J'ai lu un bouquin sur combien on dépense. Là, le livre vert de la défense qui a été édité par les Verts. Je suis désolé, je ne suis pas vert. Enfin, c'est eux qui m'ont donné, donc j'ai lu. Alors, il faut faire attention de ne pas casser trop les emplois de l'armée, parce que... des gens qui bossent dans les usines d'armement, parce qu'ils vont être sans emploi. Etc. On entend des arguments complètement débiles. Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi à la main. On sait très bien qu'on produit des armes, on va en cours. On n'arrête pas d'aller en cours. On est au courant de plein de choses. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On continue de critiquer les médias, on continue de se positionner.
Votre question.
J'ai pas tout compris dans ce que j'ai pas tout entendu parce que j'ai des problèmes, mais mon collègue lui va me répondre. Simplement, ce que j'ai perçu, que là j'ai demandé, qu'est-ce qu'on fait? Le problème de qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, on en reparlera la prochaine fois aussi, à propos des sources de valeur, que il y a une alternative, effectivement, par rapport au travail. Faut-il supprimer le travail ? Mais supprimer le travail, c'est supprimer la structure qui actuellement organise le travail. Et là, à ce niveau-là, je vous encourage, c'est d'ailleurs l'un d'entre vous, je crois, qui m'avait passé un livre de Que faire, un livre qui s'appelle Que faire, qui est la retranscription d'un interview que la revue Philosophie Magazine avait fait entre Badiou et Gauchet. Et c'est un livre très intéressant, qui est relativement facile à lire, et dans lequel ces deux philosophes à la fois manifestent leur accord sur un certain nombre de constatations et leur désaccord fondamental sur les moyens à mettre en œuvre pour justement faire quelque chose. Et l'idée, très rapidement, l'idée, c'est qu'ils partent du constat de l'échec, ou de ce qu'ils considèrent tous les deux comme un échec des sociétés socialistes, en particulier des sociétés soviétiques, mais que pour Gaucher, c'est la conséquence inévitable de la pensée marxiste, que pour Badiou, c'est une trahison de la pensée marxiste. Bien, ce qui les amène par rapport à notre société actuelle, dont tous les deux sont d'accord pour dire qu'elle est en train d'aller dans le mur, et que, eh bien, il faut de manière urgente intervenir. Et pour Gaucher, eh bien, nos démocraties occidentales ont tout ce qu'il faut en elles pour porter remède au problème qui est le leur. C'est à quoi Badiou répond : vous êtes un grand naïf, monsieur Gaucher. Vous oubliez tout simplement que il y a un pouvoir dans notre structure sociale, et que ce pouvoir, là aussi, il est déterminé par des viscères et des intérêts, et qu'on voit mal comment ils vont abandonner d'eux-mêmes leur pouvoir. Et que donc, pour Badiou, Badiou développe l'idée qu'il a développée par ailleurs, qu'il n'y a qu'une alternative possible, celle que lui appelle l'idée communiste. Donc, c'est un livre intéressant, parce que, en même temps, on a là un dialogue qui est finalement sans concession entre deux philosophes. Et c'est intéressant de voir deux philosophes, si vous voulez, discuter entre eux et manifester à la fois leur accord et leur désaccord. C'est relativement facile à lire, parce que c'est un style oral, puisque c'est la transcription écrite d'un interview. Donc c'est tout petit en plus. Et c'est écrit gros.
Bon, je voudrais intervenir et je voudrais reprendre ce que tu as dit. Tu as dit d'abord aussi, nous sommes dans l'obligation d'accepter le travail. Ça, c'est ton point de vue. Mais je peux te dire que on peut refuser un travail, on peut choisir jusqu'à un moment où on a la compétence et où le patron aura besoin de vous. C'est une différence importante. Deuxièmement,
simple question.
Oui.
Est-ce une donnée générale qui est représentative de la façon dont, de manière générale, le travail est organisé dans nos sociétés, ou est-ce des cas particuliers?
Non, pas forcément. Le travail reste le travail, et il n'y a pas des cases comme ça. Tu les ranges dans des cases, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Chacun se détermine par rapport à un projet de travail. Il est capable de le refuser s'il le veut, comme il est capable de l'accepter. Ça, c'est le premier point.
J'aurais tendance à dire que tu es un grand maillard.
Deuxièmement, tu ne peux pas défiler derrière des mots d'ordre. Je pense que la marche qui a été celle que tu as vue, celle que tu n'as pas entendue, parce qu'il n'y avait pas de mots d'ordre, et que les gens n'ont pas manifesté à corps et à cri, ils ont manifesté en silence. ce qui permet à chacun d'entre nous de penser ce que l'on veut et pas ce que le pouvoir veut.
Là, je réponds parce que Enfin,
je me permets de terminer par un poème. Il n'y a pas tel que le poème qui est pratiquement la sœur, le frère de la philosophie. Parce que tout reste ouvert, il n'y a pas d'enfermement. Et ce poème s'appelle L'Évadé. Il a dévalé la colline, ses pas faisaient rouler les pierres. Là-haut, entre les quatre murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres avec son corps comme une forge. La lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il sautait à travers les arbres. Il a cueilli deux feuilles jaunes gorgées de sève et de soleil. Les canons d'acier bleu crachaient de courtes flammes de feu sec. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il est arrivé près de l'eau. Il y a plongé son visage. Il riait de joie. Il a bu. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il s'est relevé pour sauter. Pourvu qu'il me laisse le temps. Une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, le temps de boire ce ruisseau, le temps de porter à sa bouche deux feuilles gorgées de soleil, le temps d'atteindre l'autre rive, le temps de rire aux assassins, le temps de courir vers la femme. Il avait eu le temps de vivre.
Très bien. Ceci dit, deux remarques. Un, tu dis que tu peux penser ce que tu veux. Je dis que tu es un grand naïf. Moi, je n'y pense pas ce que je veux. Mes pensées m'obsèdent et mes pensées me résistent. D'où viennent mes pensées ? Mais je ne peux pas penser différemment de la façon dont je pense aujourd'hui. Peut-être, à terme, ma pensée va évoluer. Mais aujourd'hui, je ne peux pas penser ce que je veux. Il n'y avait pas de slogan dit. Mais tu n'as pas écouté les radios, tu n'as pas regardé la télé, tu n'as pas lu les journaux. Qui était mis en avant ? Non pas le silence, mais les mots d'ordre. Ceci dit, moi j'estime que je n'avais rien à faire dans cette manifestation. Je t'ai laissé parler, tu me laisses parler. Je reconnais le droit à tout un chacun d'avoir une opinion tout à fait différente de la mienne et de trouver qu'il devait participer à cette manifestation. Mais je dis que ma présence, moi, m'aurait mis mal à l'aise. Je conçois très bien qu'on puisse être tout à fait à l'aise dans une manifestation où on se retrouve à je ne sais plus combien de millions de personnes. C'est satisfaisant. C'est affectivement positif. J'ai dit au point de départ que je considérais cette manifestation comme quelque chose de positif, mais d'insuffisant. Et qu'en tant que philosophe, mon rôle n'était pas d'insister sur le caractère positif de cette manifestation, mais sur les risques théoriques qui y étaient inclus. Et dont rien ne permettait de les déterminer. D'où c'est cela, mais qu'on fasse une analyse différente de la mienne, cela ne me gêne d'aucune manière. Simplement, je reconnais et j'exige de tout un chacun qu'il ait la même position par rapport à moi. Et que je refuse ton propre propos de dire que j'aurais dû y participer. Enfin, je ne sais pas si tu l'as vu, mais tu l'avais tellement en tête que finalement, je l'ai entendu. Donc, voilà. Je dis que ceux qui y ont participé, très bien, mais que il y avait de nombreuses raisons de ne pas y participer. Toutes ne sont peut-être pas équivalentes. Peut-être que la mienne ne vaut rien pour qui que ce soit d'autre que pour moi. Mais pour moi, elle valait. Et que je ne sais pas d'où viennent mes pensées. Je ne sais pas si je pense ce que je veux. Mais j'ai pris l'habitude, depuis un certain nombre d'années, d'essayer de vivre en conformité avec ce que je pensais. D'où que viennent mes pensées. Et si mes pensées m'amènent à considérer, peut-être à tort, que je n'ai rien à faire là, je n'y vais pas. Oui ?
C'est ton point de vue.
Bien sûr ! J'ai pas arrêté de venir !
Hein ? C'est la liberté d'expression.
C'est ton point de vue et je ne chercherai jamais à te convaincre de l'inverse. Je n'ai pas dit ça. C'est ton point de vue et ça te regarde.
Tout à fait.
Les gens qui ont défilé, ils ont défilé en silence. Et derrière le silence, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a toujours quelque chose. Et la pensée de ces gens-là est sûrement différente. Elle n'est pas la même de Pierre, de Georges ou de Jean. Ça n'a rien à voir. Tu parles des radios. Donc nous avons été influencés par les médias, les radios, qui ont dit je ne sais trop quoi, je ne sais trop qui, et qui ont dit aussi qu'on allait attraper les assassins. Je m'en fous éperdument. Je n'étais pas là pour ça. Voilà.
Allez, enfin.
Pour rester dans le même thème, moi j'ai considéré cette manifestation comme une marche blanche. On avait fait à Échirolles, par exemple, à l'occasion du meurtre des deux jeunes dans le jardin, une marche blanche. Et il n'y avait pas de mot d'ordre. Et là, à Grenoble, j'ai apprécié, je n'ai pas du tout apprécié les Je suis Charlie. Ça, j'ai pas compris, mais pour ça, c'est pas très bien. Je n'ai pas défilé avec Je suis Charlie, je n'ai rien dit. Et je pense qu'à Grenoble, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu un mot d'ordre, chacun était là, tranquillement, ils ont marqué simplement le fait que c'était une marche blanche, il y avait eu des morts, dans des conditions gravies, et je pensais qu'il fallait se manifester de cette manière. Et s'il n'y avait que des philosophes, il n'y aurait personne dans la rue.
Je voudrais simplement, ce n'est pas une réponse à ta question, à ton propos, mais c'est que dans le fait de se trouver à l'intérieur d'une foule avec laquelle on se sent, au niveau émotif, on se sent en accord, on ne sait pas qui est là. On ne sait pas ce qu'ils pensent, mais il y a là une manifestation concrète de quelque chose de collectif. Et cela est, de manière émotive, extrêmement lourd, extrêmement efficace, et dans la plupart des cas, en tout cas en l'occurrence, extrêmement positif. Sauf que ça peut être aussi extrêmement négatif. Et qu'on a l'exemple de foules qui ne se comportaient pas de la même manière que celle-ci. À quoi ça tient ? Qu'il y a eu peu d'études sur la psychologie des foules ou sur la psychologie des individus dans les foules. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes. Bien. J'ai oublié, il y a un certain petit bois. Le bon.
Le bon, oui. Pour la psychologie des foules. Il y a également Rösch, qui, dans son livre La psychologie de masse du fascisme, étudie ce problème-là. Bien. Il y en a peu. Par contre, tous disent que l'individu, au sein d'une foule, n'a pas le même comportement que tout seul. D'où que ce comportement, il est effectivement médiatisé par la foule. Et que je ne suis pas aussi confiant dans mes capacités que tu sembles l'être toi, mais je sais que je ne fonctionne que sous le conditionnement qui sont les miens, et que les conditionnements que je subis, si je peux ne pas les subir, je ne les subis pas. Et que j'évite de me mettre dans une situation où je sais que, en fait, les données qui vont être conscientes chez moi ne représentent que 10% de mon vécu psychologique, et que les 90% du reste vont s'installer chez moi sans que je m'en rende compte. Et en tant que philosophe, ça ne me plaît pas. D'où il y a des situations que j'évite de vivre. Quelque sorte, par précaution. Peut-être suis-je trop craintif, mais je connais ma nature impulsive, je connais ma nature un peu provocatrice. J'ai moi-même, à certaines périodes de mon existence en tant qu'étudiant, organisé des manifestations qui avaient un succès considérable à l'époque, parce que j'étais un très bon meneur et en plus un très bon orateur, et que je connais en quelque sorte de l'intérieur les risques que je cours à revivre des choses identiques. D'où, sur un plan plus personnel, et c'est ce que je voulais dire en disant que les manifestations, ce n'est pas ma tasse de thé, ce n'est plus ma tasse de thé, et encore moins quand elles sont organisées par ceux que sur un autre plan, je combats.
Maintenant, tu as parlé de la foule. Si on coupe, comme je le fais d'habitude, le mot foule, on obtient quoi? On obtient fou et le. L'individu, ce que je constate, dans les manifestations, on parle de la manifestation silencieuse, ou dans les fêtes qu'on organise, les fêtes publiques, sur la place publique, etc. Nous sommes dans la foule. Et dans la foule, l'individu sort de sa prison et libère sa folie. Parce que l'individu, on parle de la liberté d'expression, alors que la liberté d'expression, en réalité, l'être humain n'est pas libre. Il n'est pas tout à fait libre. Et dans la foule, c'est une occasion, quand je suis dans la foule, c'est une occasion de retrouver ma liberté.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que rien ne se fera en dehors de foule. Historiquement, si tu regardes les changements dont madame là-bas dit, on fait quoi maintenant? Ce n'est jamais de manière individuelle que les structures sociales se modifient. C'est toujours sous l'impact de mouvements collectifs importants. Appelle-les foules. La foule peut effectivement provoquer la folie, mais ce n'est pas l'essence de la foule. La foule aussi peut avoir un effet positif. Il y a des conditions pour cela. Ces conditions, effectivement, bon, elles sont complexes. Mais la foule n'est pas en elle-même une source de folie. Elle peut le devenir. Mais elle est aussi parfois une stratégie de guerre importante. Si tu prends les printemps arabes, si tu prends des exemples de ce type, y compris dans les anciennes colonies soviétiques, rien ne s'est fait en dehors de foule. Et c'est sous l'impact de mouvements collectifs importants qu'effectivement des modifications, alors après on les juge positives, on les juge négatives, c'était notre problème, mais ont eu lieu. D'où la foule, effectivement, tu peux faire ta composition privilégiée, le fou, mais ça n'est pas toujours le cas. Ça n'est pas toujours le cas. Me semble-t-il.
Mais pour en revenir à ce que disait Lilian en début de cours, comment peut-on considérer la colonisation de la Gaule par la civilisation romaine ? Est-ce positif ou négatif ?
Alors c'est intéressant parce que quand on regarde la façon dont on racontait la France à la fin du 19e, même au début, dans Emmanuel, hein, au début du 19e, il y avait une sorte comme ça, on est passé des Gaulois, des Gaulois gallo-romains aux Francs, et puis jusqu'à la troisième date, évidemment, le français. Mais aujourd'hui, il y a des travaux, je pense à Desmoulins, par exemple, il y a des travaux qui sont faits là-dessus, c'est-à-dire que cette conception ethnocentrique, évolutionniste, qui fait voir un progrès entre les Gaulois et les Romains, par exemple, si on prend cet exemple historique. Donc, en fait, ce qu'on appelle plus les Gaulois, d'ailleurs, les Gaulois, on ne sait plus trop ce que c'est le passé de Montpessel, parce qu'il y a une énorme difficulté, il y a beaucoup de diversité à l'époque. Et en fait, on s'aperçoit que, ayant vu cette histoire du point de vue des Romains, parce qu'évidemment, la référence est celle de César, le livre de la guerre des Gaules, là, c'est un point de vue ethnocentrique, c'est le point de vue des Romains, et comme nous, on est héritiers de ça, c'est Astérix, Obélix, enfin, tout ce qu'on voit là. Mais aujourd'hui, il y a des travaux très sérieux qui sont faits par des historiens, ethnologues, justement, qui travaillent sur les funéraires, les tombes qu'on a pu retrouver, et qui montrent que, il est possible, c'est ça le regard anthropologique, il est possible que ce soit plutôt l'inverse, c'est-à-dire que, à la limite, il y a tout un pan de valeurs, de manière d'être, de vivre, des sept, qui permet de rattacher, de revenir un peu sur le cours, qui ont disparu après les Romains, et qui peuvent être considérés comme une perte aujourd'hui. Le monde des sept, des Gaulois, des images des sauvages, là, qui passent leur temps à se taper dessus, à s'engueuler, Astérix, quoi, le village Astérix, on est très loin de la réalité. La réalité, pas celle-ci. Non, la réalité historique, anthropologique, et que donc voilà, c'est encore un exemple d'un regard qui parfois peut être ethnocentré, même dans le temps, parce que là c'est l'histoire, même dans le temps, et qui peut complètement fausser, et on ne voit pas que cette façon de raconter l'histoire n'est pas là tant pour rendre compte de la période historique que de défendre ses valeurs. Ce qui permet deux choses, juste parce que tout ce que j'ai entendu, il y aurait trop de choses à dire, donc juste une chose quand même, mais ce qui permet, alors par rapport aux manifs, alors d'abord par rapport au cours, parce que j'ai peur que ça relance, mais d'abord par rapport au cours, le schéma là qu'on vous a mis, ce que je viens de dire là, sur les sept, sur ce que tu appelles les Gaulois, le schéma qu'on vous a mis, justement, c'est-à-dire que les sociétés primitives, d'un point de vue anthropologique, on dit elles sont différentes. Oui, elles sont différentes de notre société. Mais elles sont égales, ça veut dire quoi égales ? C'est qu'il n'y a pas une évolution entre ces sociétés et nos sociétés, ça veut dire que du point de vue de notre culture, notre culture a une certaine valeur, mais du point de vue d'une culture qui n'est pas la nôtre, si on se met à l'intérieur de cette culture, elle a la même valeur, de son point de vue, c'est ça que ça veut dire. Donc il n'y a pas à faire une comparaison entre les deux pour savoir qui est plus ou moins. Ou s'il y en a un qui serait sous-évolué par rapport à l'autre, on part du principe en anthropologie, en ethnologie, que la question de la valeur est réglée, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de chaque manière d'être humain, à l'intérieur de ce que Bernard appelle une diversité d'être humain, une diversité de façon d'être humain, il n'y a pas à chercher entre ces diversités laquelle serait la mieux. L'anthropologue part du principe que à chaque individu à l'intérieur de sa culture, c'est bien. C'est à l'intérieur de sa culture. Il n'a pas à se comparer à d'autres pour savoir si c'est bien ou mal. Vous voyez et donc, double schéma, là, vous avez mis un point de progression. C'est-à-dire que si on regarde à l'intérieur de notre culture, en fin de compte, du point de vue anthropologique, l'anthropologie nous montre comment, en fin de compte, dans notre rapport au monde, par le travail, par la technique, on aboutit à des valeurs, le travail comme source de valeur, source d'une certaine humanité économique, où on va être amené à transformer la nature, un système d'échange, on verra tout ça le coup d'après. Mais si vous vous placez du point de vue des cultures dites primitives, les Celtes par exemple, je ne dis pas, vous êtes d'accord, enfin, quoi que les Bretons, vous ne serez pas d'accord, mais je me méfie, parce que s'il y a un Breton dans la salle, il va voir sa potion magique. Et, voilà. Donc, la potion magique, oui, c'est, comment on appelle ça, c'est ce qu'on met avec les crêpes, là, leur boisson favorite. Si, entre eux. Bien, si on prend, il y a un revendique, vous avez en Bretagne aujourd'hui tout un courant qui revendique, qui parle le celte, on ne sait même pas ce que c'est, puisqu'on n'a aucune trace, mais il prétend qu'il parlait le celte, là, du point de vue d'un breton, celte, et qui font d'ailleurs qui revendiquent le même tourisme, qui ont complètement disparu. Mais on voit apparaître, malgré tout, alors c'est évidemment, là, on voit bien, c'est ce que les ethnologues appellent le folklore, hein, le fait que les cultures se sont folklorisées, en fait, à l'intérieur de notre culture. Elles continuent à être diverses, mais elles n'ont pas non plus la valeur économique que nous avons à l'intérieur de notre culture. C'est ce qu'ils appellent le folklore, c'est ce que les discours s'appellent le folklore, peu importe. Donc si on regarde du point de vue de chaque culture, en fin de compte, il y a des cultures aujourd'hui au moment où je vous parle qui existent, qui ne sont pas les nôtres, qu'on ne connaît pas et qui ne connaissent pas. N'importe quelques-unes, on n'a pas tout découvert sur Terre. Vous voyez, au moment où je vous parle, sans parler de culture historiquement, primitive, etc., archaïque, etc. On ne peut pas dire à l'avance, du point de vue anthropologique, ce qu'elles deviendront. Elles peuvent peut-être produire une façon d'être humain qui n'a rien à voir avec un. C'est pour ça qu'on vous a mis un point d'interrogation. C'est que du point de vue anthropologique, on pourra peut-être un jour avoir une culture qui aboutit à quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail source de valeur économique ou source de valeur morale. On ne sait pas. Puisqu'il n'y a pas d'évolution entre les deux. Vous voyez donc ça ouvre une porte, malgré tout. Alors ça, c'était juste une parenthèse, c'était pour compléter un peu le schéma. Mais, alors par rapport aux manifs, je ne dirai pas mon point de vue personnel comme Bernard, parce que l'éducation nationale me l'interdit, donc voilà. Oui, parce que dans ce que tu disais tout à l'heure, c'était ça le message aussi. C'est ton point de vue. Et moi, je veux que tu allais dire ça, mais en fait, tu l'as pas dit. C'est ton point de vue, pourquoi tu dis à tout le monde? Ça passe à la radio, ça passe. Il est public, il n'est pas que privé. Hein. Alors, je me cache un peu derrière ça en disant, bon, ben voilà, une position qui fait que je n'ai pas le droit. Donc, très bien. Donc, je n'en parlerai pas. Par contre, sur les manifs, j'ai une chose à dire, c'est que sur les manifs, quel que soit mon point de vue, c'est un exemple parfait, cette manif, parce que au moment où je vous parle, il y a d'autres manifs en Afrique qui prennent le contre-pied de notre manif et qui sont en train de persécuter même des chrétiens au nom non seulement je ne suis pas Charlie Hebdo, hein, mais il ne faut pas être Charlie Hebdo. Hein, c'est ce qu'on peut lire sur les fameux slogans. Donc, et c'est une violence inouïe. Par contre, là, c'est loin d'être silencieux, d'après ce que j'ai compris. Mais, on voit bien que là, c'est ça que je montrais, c'est que dans ces manifs, et j'ai bien aimé je ne vais pas utiliser ce terme parce qu'il est trop péjoratif et je ne vais pas me faire taper dessus, mais ce que vous avez dit, la non-écologique qui est en vert, d'ailleurs, qui est en vert, je ne sais pas, c'est pas votre nom, mais vous avez dit, vous avez parlé de laïcité, vous avez montré un peu tous les arguments qui pouvaient justifier le fait qu'on aille à la manif, et c'était, voilà, ça résumait assez bien les choses, je pense, et vous avez terminé en disant, mais, fais quoi après? Alors, justement, là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui illustre parfaitement le cours qu'on essaie de vous donner aujourd'hui. C'est que quand on fait des manifs au nom de valeurs, et qu'on prétend que le problème, c'est la valeur, que le terrorisme, parce que c'est ça que tu as voulu, je crois, tout à l'heure, je crois, parce que je pas avancer, mais je crois que ce qu'a voulu dire Bernard tout à l'heure sur la question du terrorisme, c'est que le terrorisme en tant que tel, c'est ni une valeur, ni c'est un acte en fait, en tant que tel. Et derrière cet acte, on peut être terroriste, on peut être résistant contre les Allemands et être terroriste, on peut être donc être contre le terrorisme, ça veut dire quoi? C'est pas ça qu'on va faire. Cela dit, ça illustre parfaitement la chose. Pourquoi? Parce que ça montre bien, c'est que faisant du problème un problème de valeur, la seule façon d'en sortir, et c'est la limite. J'ai entendu sur France Culture, je pourrais pas vous donner un nom, c'est un philosophe américain, j'ai cru que c'était quoi, mais en fait non, c'en a un autre que je connais pas, qui est intervenu pour expliquer que lui, il s'était intéressé un peu, parce qu'il connaissait pas Charlie Hebdo, donc intéressé un peu à la France, bon, c'est un philosophe américain, pour lui on est un peu des fourmis, donc il regarde de temps en temps, très bien, il a regardé un peu, du coup c'était l'occasion pour lui de regarder un peu c'est quoi les Français, comment ça fonctionne, etc. Et il expliquait, mais qu'il était horrifié, c'est qu'on mettait sur le même plan ce qui s'est passé avec le problème de Charlie que sur les tours, l'histoire des tours. Et lui, il montrait qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a strictement aucun rapport. Et qu'il a dit, c'est une insulte pour les Américains. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Donc, la question de la valeur, ce que je veux dire par là, c'est que la question de la valeur, dès que les gens, vous me dites, les gens, tu dis, les gens avaient chacun leur cité dans la tête. Mais ils se sont retrouvés là-dessus, sur les valeurs. Quel que soit leur point de vue, au bout du compte, nous sommes là pour défendre, ce que vous avez très bien dit, les valeurs de l'esprit critique. Justement, les philosophes, celui qui, Charlie Hebdo, c'est celui qui provoque, qui critique, il a le droit de le faire. C'est un travail. On ne peut pas interdire ça. À moins d'interdire la philosophie elle-même. Donc c'était bien une valeur qui était revendiquée. Donc, c'est-à-dire qu'on faisait d'un problème humain, social, politique, économique, un problème de valeur. Faisant un problème de valeur, bien sûr qu'il n'y a pas d'issue. Parce que ça voudrait dire que l'origine du problème serait justement les valeurs. Donc on y va d'un point de vue essentialiste. Mais s'il n'y a pas d'issue, c'est peut-être le signe qu'il faut que la question de la valeur, elle se pose du point de vue de notre conscience. Mais que c'est peut-être, et là il y a l'Américain dont je vous parle, c'est pour ça que j'en parle, analyser ça, parce que lui, c'est un philosophe américain, je regrette d'avoir oublié le nom, très critique par rapport à la politique américaine, vous savez, contre le terrorisme, contre un peu Bush Brothers, très alarmiste, tout le monde surveillé, puis la façon dont les États-Unis ont fait la guerre. Donc très critique, un philosophe américain, mais très critique par rapport à sa propre, la politique américaine par rapport au terrorisme. Et il soulignait justement le fait que derrière le terrorisme, derrière les gens là qu'on a vus à la télé aller tuer dans un supermarché, enfin tout ce qui s'est passé, il y a des gens effectivement. Et il n'y a pas que des revendications de valeurs ou de religion. Il peut y avoir aussi des conditions économiques. Il peut y avoir aussi des problèmes économiques. Et donc je voudrais parler plutôt de l'Irak. Alors du coup, rattacher, c'est un peu particulier, rattacher ce que vivent les gens dans les banlieues, un peu ce que vivent les gens en Irak, un peu la pauvreté. Alors là, ça c'est le. D'avoir poussé américain, évidemment, les banlieues en France, c'est pas les marques non plus, c'est pas, on est d'accord, mais lui, bon, on est dépourvu, donc on voit ça très loin. Mais on voit bien que là, c'est la limite, c'est-à-dire que posant les choses, c'est bien de se trouver ensemble pour des valeurs. C'est un bon moment, c'est comme une grande messe, comme je sais pas s'il y en a qui vont à la messe le dimanche, c'est un bon moment, c'est fraternel, c'est voilà, c'est bien. Maintenant, est-ce que le problème peut être réglé par les valeurs dont nous avons conscience? Ça, c'est un autre problème. C'est dire que les terroristes dont on parle là, ceux qui se sont attaqués aux dessinateurs c'est ce qu'a voulu dire d'ailleurs Bernard, ne pensent pas, ils n'auraient pas de valeur. C'est au nom de valeurs qu'ils ont fait ça. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur, c'est peut-être pas les nôtres, d'accord, mais c'est bien au nom de valeurs. Et ceux qui aujourd'hui au Niger, par exemple, sont en train de mettre le feu contre les manifs qu'il y a eu, c'est aussi au nom de valeurs. Donc si on est sur le terrain de la valeur, j'ai bien peur que y a toute une partie inconsciente, économique, qui n'est pas analysée à ce moment-là, qui n'est même pas analysable à ce moment-là, puisqu'on ne voit que les valeurs qu'on vise, vous voyez. On commence à peine en ce moment à interroger, écoutez bien les médias, à commencer à interroger les causes réelles, c'est pas économique, vous voyez. N'interrogeant pas ces causes, ce sera plutôt l'objet du prochain coup, hein, donc je m'attarde pas, mais n'interrogeant pas ces causes, évidemment, on se retrouve dans la position dont vous parlez, et ça on l'entend de plus en plus à la radio, on fait quoi après? Vous avez les médias aujourd'hui qui disent aux politiques, très bien, on s'est réunis, vous avez dit, on est derrière vous, vous faites quoi? Ben, essayer de changer le monde avec une valeur comme la fraternité, comme la liberté, l'égalité, mais concrètement, je veux dire, vous prenez cette valeur et vous essayez de changer quelque chose, essayez de le faire. Une valeur, c'est une valeur. C'est pas une réalité, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, là, c'est tout ce que je voulais dire, c'est que le fait de manifester pour des valeurs ou en fonction de valeurs, évidemment qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que ça change le monde. Parce que pour changer le monde, c'est ce qu'a voulu dire Bernard par les foules, évidemment que les révolutions, que la révolution française, bolchevique, il y a des choses qui ont changé, les révolutions sont passées par les foules, mais il a fallu, avec ces foules, en même temps, des changements économiques, politiques, beaucoup plus concrets que simplement le fait de revendiquer des valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
les valeurs sont-elles vraiment universelles?
Je reviens à cette discussion par rapport aux manifs.
Oui.
Je reviens par rapport à la discussion autour de la manif du 11 janvier. Je ne suis pas un abonné de Charlie Hebdo, mais j'ai manifesté et j'ai organisé ma manifestation sans faire aucun appel ni aucun mot d'ordre. Ce qui me gêne dans cette présentation qu'a présentée Bernard, c'est qu'il démarre par une analyse de valeur. Il a parlé de l'égalité, fraternité, les trois emblèmes de la République. En les critiquant, et pratiquement, non liberté. Ça, c'est son analyse, et on peut la partager ou pas, mais ça prend beaucoup de débats. Mais ce qui me gêne, c'est que, de toute façon, on est là parce qu'on a envie d'écouter des philosophes pour avancer avec leur idée et ce qu'ils nous apportent. Et lorsque vous parlez dans des manifestations, nous, on vous écoute en tant que maître, élève, parce que dans la philosophie, c'est comme ça. Et on le sent comme ça, moi je le sens comme ça. J'écoute les valeurs que vous passez. Et quand vous partez par l'analyse, par les valeurs de liberté, de fraternité, et qu'on vit dans un monde de guerre, il y a des guerres en Afghanistan, il y a des guerres proches peut-être en Iran, il y a des guerres en Irak, vous n'avez pas justifié l'acte par ça, mais on écoute. Et à la fin, ce qui est très subtil chez vous, Bernard, c'est que vous dites, c'est mon point de vue. Mais votre point de vue, c'est une influence énorme pour ce que vous écoutez. Vous l'avez dit vous-même après. La parole change le moral et la tête des gens. Maintenant, vous avez un carton vert, parce qu'à la fin de la discussion, vous avez dit que je n'ai pas fait parce que j'ai peur, en souvenir de ce que j'ai fait avant. Ça, je l'accepte. Vous avez dit de dire, je n'ai pas fait des manifs parce que j'ai fait des manifs et maintenant j'ai peur. Ça, c'est normal. Et c'est une analyse que j'accepte très bien. Mais de dire, moi, je vais parler, mais sans point de vue, parce que je suis Charlie, c'est quoi? C'est une valeur et c'est une culture. Quand je défile derrière, je suis Charlie, parce que je suis Charlie, c'est la laïcité. Particulièrement, je ne dis pas la démocratie, parce que la démocratie, on peut faire un an des vins comme le fait dans ce truc-là. Parce que c'est un symbole de la laïcité. Et c'est une guerre de valeurs. Maintenant, actuellement, les gens qui ont fait ça, ils l'ont fait par rapport à des valeurs. Parce que tout le monde. Donc, que la manif soit a été spontanée le jour de l'agression, et puis après a été organisée. Je suis d'accord qu'on ne défile pas par un appel gouvernemental. D'ailleurs, les partis se sont mis à l'abri de ne pas faire la même. Mais c'est un gouvernement qui est là, c'est un pays qui a été attaqué. Ceux qui sur la tête du pays appellent à une marche. C'est obligé. Donc maintenant, les mots d'ordre qui ont été je suis Charlie, c'est uniquement parce que c'est une culture, comme sur le groupe, c'est une valeur. C'est pas le nom de Charlie, mais derrière lui, la subtilité que ceux qui ont fait l'acte le savent, et ceux qui ont défilé le savent. Maintenant, pour le philosophe américain, c'est quoi la différence entre les tours et je suis ce qui s'est passé en France dernièrement? C'est le nombre de morts parce qu'il y a eu 3000 dans les États-Unis, il y a eu 7 ici. Non, c'est les mêmes valeurs, c'est les mêmes gens, c'est la même ligne. C'est là que, à l'époque, après on a appelé ça l'Al-Qaïda, c'est les mêmes. C'est les mêmes qui ont fait les tours, c'est les mêmes qui ont fait la taille de la
boutique. En un mot, la différence.
C'est terminé, c'est terminé. Et je suis un peu, pas gêné, mais je sens quand même difficile à accepter un point de vue. Qui, alors, qui mène? Si on était tous des philosophes, on fait rien. On attend, les valeurs continuent à être écrasées, et on va réfléchir. Voilà.
Je réponds une première fois au monsieur et puis une deuxième fois là, rapidement. Moi j'ai le sentiment, comment se bat-on contre des valeurs? En discutant. Et j'ai le sentiment, personnellement, de me battre en faisant ce cours, de me battre contre des valeurs et de pratiquer une lutte au niveau des valeurs. Plus qu'en allant manifester. Il est pour moi plus important de pouvoir faire ce cours que d'aller manifester. D'où se battre au niveau des valeurs. Je ne me bats pas contre le terrorisme parce que je ne suis pas un militaire. Que les militaires le fassent. Que le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Armée l'organisent. Oui, se battre au niveau des valeurs, ça n'est pas l'armée ni la police qui doit le faire. C'est éventuellement l'éducation nationale, c'est la philosophie. Donc là, en tenant le discours que je vous tiens, j'ai le sentiment de répondre à ce que dit madame. Et maintenant, on fait quoi? On se bat contre les valeurs. Et on se bat contre les valeurs en essayant à mon niveau de vous donner des outils théoriques, non pas qui vous permettent de penser comme je pense à propos de liberté, égalité, fraternité, mais d'avoir un point de vue différent de celui qui habituellement est manifesté. Et que celui qui habituellement est manifesté, c'est que ce sont des valeurs universelles. Moi, je viens de vous dire que ça ne sont pas principalement des valeurs universelles, mais qu'on peut les interpréter différemment. Après, vous, interprétez-la comme vous voulez, ou comme vous le pouvez. Mais on ne peut pas dire, et je refuse que ce soit dit, que la seule manière de les considérer, c'est de les considérer comme des valeurs universelles. Elles peuvent très bien être considéré comme le niveau idéologique où une classe sociale organise son pouvoir au sein d'une structure sociale. Maintenant, je vous donne un point de vue différent. À vous de réfléchir. Quant aux Gaulois, le problème, ce qui nous manque, eh bien, c'est d'avoir la donnée concrète. Que serait devenue la société gauloise si les Romains ne l'avaient pas colonisée? Rien ne nous permet de dire, là encore, rien ne nous permet de dire qu'elle ne se serait pas développée d'une manière qui soit pour nous aujourd'hui plus satisfaisante que la façon dont elle s'est développée. Rien ne nous permet de le dire, mais rien ne nous permet de dire le contraire non plus, parce qu'elle ne s'est pas développée de la sorte. Mais le problème qui est sous-jacent, c'est que est-ce qu'il n'y avait qu'une seule manière pour elle de se développer, ou est-ce qu'il y en avait plusieurs? Avant l'invasion des Romains, il y en avait une autre. Elle-même, l'invasion des Romains, comme les colonisations, viennent bloquer un système d'évolution pour en imposer un autre. Et d'où l'évolution de la structure sociale dépend à ce moment-là de la nouvelle donne. Mais on ne saura jamais ce que serait devenue la société gauloise si l'invasion romaine ne s'était pas produit. Mais peut-être serions-nous des Gaulois heureux.
Question.
Simplement une remarque très simple, qui ressort beaucoup de tout ce qui a été dit. De fait, dans les manifestations dont on a parlé, le premier, c'est qu'il y a eu des manifestations spontanées qui se sont faites en nombre à partir du mercredi, puis du jeudi, que nous avons vécu. La deuxième, c'est que le nombre de gens qui sont allés dans la rue montre bien qu'ils n'étaient pas du tout guidés par une idéologie affirmée, parce qu'on n'a jamais cette majorité pour telle ou telle idéologie, mais ils étaient contre une atteinte à un principe qu'ils estiment nécessaire et génétiquement en chacun de nous, qui est une forme de liberté, qui est la liberté d'expression, cela ne préjugeant évidemment pas de ce qu'on va pouvoir faire après. Et ça, c'est tout le problème que nous allons voir se définir. Il n'est pas certain que, à terme, ça modifie beaucoup, beaucoup les nombreuses discussions dans lesquelles nous vivons depuis des années. Mais ça a au moins marqué que, d'une façon générale, la société française avait un certain nombre de principes, disons de valeurs, qui ne sont pas universelles, bien sûr, mais qui sont les siennes. Et sur ce plan-là, c'est quand même assez positif.
Et je vois du tout ça.
Je voulais parler là, du livre de Tintin qui parle du choc des civilisations. Bien sûr, l'Occident, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le bien contre l'autre civilisation. Et certainement, ça justifie la guerre. Parce que, bon, il y a le terrorisme, parce que nous sommes en guerre. Oh, l'armée française, elle envoie les armes, il y a des armes, elle envoie des soldats, et on tue, on n'envoie pas des crayons là-bas, on envoie des armes. Donc, voilà, c'est donc des conséquences malheureuses.
Moi, je voudrais poser une question à Bernard. Est-ce que vous pensez que les journalistes ont le droit d'être irrévérencieux, d'écrire des blasphèmes, ou est-ce qu'il faut qu'ils tiennent compte à chaque fois de leur lecteur ?
Madame demande si tu penses, ça m'intéresse pour moi à toi, si tu penses que les journalistes, du point de vue des journalistes, est-ce qu'ils ont vraiment le droit de blasphème, par exemple, de provoquer, ou alors ils doivent tenir compte du lecteur, de son point de vue, de respect.
Je ne suis pas journaliste et je ne connais pas la déontologie de l'homme, mais je vais vous répondre. Mais laissez-moi ma manière de répondre. Alors, je commence par dire que je ne suis pas journaliste et d'où je ne connais pas le code de déontologie des journalistes. Parce que toute profession a un code de déontologie. À ce niveau-là, je ne sais pas si votre réclamation, en quelque sorte, fait partie de ce code de déontologie. Ceci dit, je dirais qu'il est très difficile d'établir une limite à la liberté d'expression. Et que par contre, il y a une chose que dont on ne prend pas conscience suffisamment. C'est qu'il y a une manière de se battre contre quelqu'un, contre un comportement, contre une idée qui, bizarrement, renforce l'idée contre laquelle on se bat. Au lieu de la combattre et de la diminuer, elle la renforce. On a d'ailleurs un exemple là. C'est dans le terrorisme. C'est que le terrorisme, bon, se bat, enfin, le fondamentalisme religieux se bat contre l'Occident en utilisant cette stratégie de guerre qu'est le terrorisme. Au bout du compte, il n'est pas sûr qu'il ait gagné des points et qu'il soit sorti vainqueur de cela. On peut considérer au contraire que il est plutôt moins bien considéré qu'avant. Donc en quelque sorte, c'est un exemple de cas où la manière de me battre contre quelqu'un va le renforcer plutôt que le diminuer. D'où, à ce niveau-là, est-ce que la stratégie du blasphème est efficace ou n'est pas efficace? Ce n'est pas un problème de droit. J'ai le droit de blasphémer. Mais en blasphémant, est-ce que je sers, quels intérêts je sers au bout du compte? Est-ce que c'est les miens? Ou est-ce que c'est finalement ceux de celui dont je blasphème? Et que, à ce niveau-là, je sais que par tempérament, même si je suis, si je peux paraître provocateur, personnellement, je n'ai jamais lu un seul Charlie Gayle. Et les rares fois où je l'ai eu entre les mains, je n'ai pas eu envie de le lire. C'était un mode d'expression qui ne me correspond pas. Ceci dit, c'est tout à fait mon unique point de vue à moi. Et je conçois très bien que ce soit arraché, encore que ça me paraît suspect, qu'on se soit arraché les 7 millions, ou pour l'instant les 5 millions de Charlie, qui sont édités. Des gens qui habituellement ne le lisaient pas. Bon, ça n'est pas mon style de journal, si vous voulez. Ce n'est pas mon style de journal. Et je pense que dans certains cas, la diplomatie est plus efficace qu'une provocation de ce type. Ceci dit, ça ne justifie en rien qu'on vienne le tuer. Et ce n'est pas un problème de droit. Je pense que j'ai le droit de blasphémer si je ne suis pas. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est respectable de celui qui croit? C'est un autre problème. Ce n'est pas d'abord un problème de droit, à mon avis. Ce n'est pas un problème de droit. C'est un problème de... Il faut calculer. Je pense que on a parfois meilleure attitude à ne pas tomber dans une provocation trop manifeste. Mais ça, ça dépend aussi du style de chacun. Je veux dire que...
Si vous me permettez... Ma petite, très rapidement, ma petite vision spirituelle ou musulmane, plus précisément, c'est que dans l'esprit musulman, il me semble-t-il, que le blasphème n'est pas interdit. Si Dieu existe vraiment, il ne peut pas punir sa petite créature parce qu'elle s'est permise de le blasphémer. Celui qui m'empêche de blasphémer l'homme avec un A majuscule, c'est le petit A qui est mon semblable. De quel droit mon semblable se prend pour un Dieu et m'imposer une loi divine qui est en tout un chacun? Parce que Dieu n'appartient à personne. Il est à tout le monde, il est en tout un chacun. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est la croyance en Dieu. On laisse tranquille Dieu et qu'on essaie de remettre en question le comportement de l'autre humain.
Merci, à bientôt.